Radio Prague, les informations.
Bonjour, le vice-ministre René Schreier va assurer l'intérim à la tête du ministère de la Culture. Deux pilotes tchèques ont été arrêtés dans le cadre d'une vaste opération internationale anti-drogue. Et puis, dans la crise du scolyte, le gouvernement approuve le déblocage de 2,5 milliards de couronnes à destination des propriétaires forestiers. L'actuel vice-ministre René Schreier va être nommé ministre de la Culture par intérim, ont fait savoir ce mercredi le ministre sortant Antonín Staněk et le premier ministre Andrej Babiš. Antonín Staněk a été officiellement révoqué par le président tchèque à compter de ce 31 juillet. Le chef du gouvernement tchèque a annoncé que M. Schreier resterait à la tête du ministère jusqu'à ce que le président Miloš Zeman rende sa décision quant à la nomination ou pas du candidat social-démocrate Michal Šmarda. Le parti menace de quitter le gouvernement si le président rejette cette candidature. Deux pilotes tchèques ont été arrêtés dans le cadre du démantèlement d'une filière pilotée par une organisation mafieuse des Balkans suspectée d'importer et de financer et de distribuer de grandes quantités de cocaïne depuis l'Amérique du Sud vers les continents européens et asiatiques par voie aérienne et maritime. Le 16 mai dernier, une trentaine de gendarmes français sont intervenus à l'aéroport de Balmulhouse, donnant lieu à l'arrestation de plusieurs trafiquants et à la saisie de plus de 600 kilos de cocaïne pour une valeur de 180 millions d'euros. L'opération Familia, coordonnée par Europol et la DEA des États-Unis et qui a nécessité un an d'enquête, a également bénéficié de l'aide de collègues tchèques de la Centrale Nationale Antidrogue qui surveillaient les activités des deux pilotes tchèques impliqués dans le trafic. Le gouvernement a approuvé le déblocage de 2,5 milliards de couronnes à destination des propriétaires non étatiques de forêts touchées par la crise du scolyte qui fait des ravages dans le pays depuis plusieurs années, a annoncé mardi le ministère de l'Agriculture. L'enveloppe doit compenser la baisse du prix du bois liée à cette crise et sera disponible cette année ainsi que l'an prochain. Selon le ministre de l'Agriculture, Miroslav Toman, le prix du bois de conifères a connu une baisse significative ces deux dernières années. Les propriétaires de forêt n'ont à l'heure actuelle pas assez de fonds pour renouveler leurs plantations. L'argent n'est toutefois pas destiné à financer l'abattage des arbres touchés par le scolyte, a encore précisé le ministère. Les sociodémocrates ne peuvent pas soutenir le projet de budget 2020, a fait savoir leur chef de filiale Hamáček ce mercredi. D'après lui, les cinq ministères dirigés par cette formation du gouvernement de coalition, dont le ministère des Affaires étrangères et celui des Affaires sociales, se verraient privés de 20 milliards de couronnes. Jan Hamáček a déclaré que le budget proposé ne permettrait pas au gouvernement de tenir toutes les promesses faites dans son programme. Le Premier ministre Andrej Babiš a fait savoir que les négociations sur le budget se poursuivraient jusqu'à la fin du mois de septembre. Le réalisateur Peter Václav a commencé dans les environs du lac de Côme en Italie le tournage de son biopic consacré au compositeur Józef Myslivecek. Il Divino Bohemo, comme il fut surnommé au XVIIIe siècle, est interprété par le comédien et chanteur tchèque Vojtěch Dyk. Coproduction tchéco-italo-slovaque, le film s'inspire du destin d'un des compositeurs tchèques les plus courus du XVIIIe siècle, notamment en Italie, où il a fait carrière, mais où il mourut dans l'oubli le plus total. Le réalisateur Peter Václav, détenteur de deux Lions tchèques pour le meilleur scénario et la meilleure réalisation, avait déjà réalisé en 2016 Confession d'un disparu, documentaire inspiré par la musique du compositeur. On termine par un mot de météo. Jeudi, jour de fête des Oscars, ciel clair malgré quelques passages nuageux et légère baisse des températures, 27 degrés en moyenne. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme au micro de Colin Gruel.
Faits et événements en République tchèque.
Merci à vous, Anna Kubišta. Bonjour à toutes et à tous. Suite de votre programme en français sur Radio Prague, dont voici le sommaire. Il y a près d'un an, disparaissait Wajdula Khan, mort mystérieusement après avoir été accusé d'avoir attaqué des militaires tchèques. Une histoire qui continue à poser des questions que rappellera Magdalena Hrazinkova. Vous avez aimé le tourisme de masse, vous avez apprécié le tourisme sexuel, vous avez adoré le tourisme alcoolisé, vous serez séduit par le tourisme chamanique dont vous parlera Alexis Rosenzweig. Et puis également au programme de notre émission de l'histoire, Pierre Maignan revient sur la première défenestration de Prague qui a fêté hier ses 600 ans. Bienvenue sur Radio Prague. La mort mystérieuse de Wajdula Khan, titré il y a quelques jours l'hebdomadaire tchèque Respect, en référence à un incident qui s'est produit en octobre 2018 en Afghanistan. Wajdula Khan, un jeune soldat afghan, est en effet décédé dans des circonstances non élucidées après avoir été accusé d'avoir attaqué 3 militaires tchèques, dont un mortellement blessé. En juin dernier, les autorités de Kaboul ont envoyé à ce sujet une note diplomatique à Prague, où une enquête a été également ouverte. Rappel des faits avec Magdalena Hrezinkova.
Pour la seule année 2018, l'armée tchèque a perdu 4 soldats en Afghanistan où elle opère dans le cadre de la mission de l'OTAN depuis 2002. La dernière victime était le sergent-chef spécialisé dans le dressage de chiens, Tomasz Prochaska, mort dans une attaque survenue en octobre dernier sur la base aérienne de Shindad à l'ouest du pays. 2 autres soldats tchèques ont été blessés dans l'attentat lorsque leur véhicule a été la cible de tir. Aussitôt, les militaires tchèques et américains ont arrêté l'auteur supposé de l'attaque, Wajdula Khan, 19 ans, membre de l'armée afghane qui a participé à l'entraînement effectué sur la base aérienne par les soldats tchèques. L'auteur de cette attaque inattendue et sans précédent, selon Lubomir Metnar, le ministre tchèque de la Défense de l'époque, a été soupçonné d'être lié aux terroristes. Après avoir été interrogé pendant quelques dizaines de minutes par les militaires tchèques, le suspect a ensuite été auditionné par les forces américaines qui l'ont finalement remis à leurs collègues afghans. Selon le journal The New York Times, qui a relayé l'affaire en novembre dernier, le soldat afghan a été roué de coups et a perdu connaissance au cours des interrogatoires. Il est décédé 6 heures après avoir été remis aux autorités afghanes par les Américains. Immédiatement après la publication de ces informations par les médias américains, le ministère de la Défense de Prague a rejeté toute accusation contre les militaires tchèques. Une enquête a toutefois été ouverte. Fin juillet, 4 personnes ont été inculpées par la police militaire tchèque pour non-dénonciation de crimes. Quelques semaines plus tôt, les autorités afghanes ont adressé une note diplomatique au gouvernement tchèque. Même si son contenu n'a pas été publié, la députée Yana Tchernochova, présidente de la commission parlementaire pour la défense, a confirmé à la radio tchèque que les autorités de Kaboul avaient demandé via cette note diplomatique au gouvernement tchèque de leur fournir des documents liés au décès du soldat Wajdula Khan. Du côté tchèque, la réponse élaborée par le ministère de la Défense ne devrait pas tarder. Rappelons enfin que 345 soldats tchèques sont actuellement engagés en Afghanistan. Le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček leur a rendu visite à Kaboul ainsi que sur la base américaine de Bagram lors de sa visite en Afghanistan la semaine dernière. Selon le chef de la diplomatie, l'incident qui s'est produit en octobre dernier sur la base de Shindad n'a toutefois pas été discuté au cours de ses rencontres avec les représentants afghans.
C'est l'histoire d'un breuvage préparé à base de liane, consommé traditionnellement par les chamans des tribus amérindiennes d'Amazonie, mais dont les effets psychotropes et potentiellement antidépressifs ont attiré ces dernières décennies bon nombre de touristes chamaniques. Son nom tient en 4 consonnes, l'ayahuasca. Une équipe de chercheurs tchèques de l'Institut National pour la Santé Mentale a entrepris de réaliser des analyses scientifiques sur les effets de cette boisson, en coopération avec des tribus du Brésil. Précision avec celui qui n'est pas tombé dedans quand il était petit, Alexis Rosenzweig.
What's an ayahuasca ceremony?
I guess there's a shaman and you have to wear white clothes and you drink this.
Mais c'est une drogue tellement à la mode depuis plusieurs années que même Hollywood s'est emparé du phénomène en 2015. Dans un film avec Ben Stiller et Naomi Watts, l'ayahuasca suscite la curiosité dans le monde et les scientifiques tchèques veulent en savoir davantage sur ses effets, comme l'explique le psychiatre Tomáš Paleníček de l'Institut pour la santé mentale. Cette recherche est financée par la Fondation Neurone.
À l'origine, notre projet est tchèque et a reçu le soutien de la Fondation Neurone, mais par la suite, l'équipe est devenue internationale avec des collègues brésiliens, allemands et italiens. L'anthropologue canado-suisse Jérémy Narby collabore également avec nous. C'est lui qui a popularisé en premier la recherche sur l'ayahuasca. Il est venu au colloque que nous avons organisé à Prague, avec aussi des membres de la tribu amérindienne Unikwi.
Indiány vlastně z kmene Unikwi.
Tomáš Palenicek a lui-même testé l'ayahuasca au cours d'un rituel traditionnel et les réactions de son cerveau ont été enregistrées grâce à un casque à électrodes pour électroencéphalographie. L'objectif pour la prochaine expédition en 2020 est d'enregistrer grâce à cette même méthode les données d'une vingtaine de participants afin de réaliser une étude sur les effets neuropsychologiques et neurobiologiques de l'ayahuasca. On écoute Tomáš Palenicek.
Nous voudrions étudier ces données sur un minimum de 18 volontaires. Nous voulons nous rendre là où se déroulent ces cérémonies et, grâce à l'encéphalographie, enregistrer des données et leurs témoignages. On aimerait leur demander de participer à deux cérémonies, l'une pendant laquelle sera bu l'ayahuasca contenant la substance psychotrope appelée DMT et l'autre qui sera en réalité une cérémonie avec de l'ayahuasca placebo, sans DMT, pour pouvoir comparer les deux. Nous aurons probablement des indigènes parmi nos volontaires.
Les travaux de cette expédition Neurone seront également le sujet d'un prochain documentaire appelé Docteur sous trip. Les scientifiques tchèques rappellent que l'ayahuasca ne peut aider à lutter contre la dépression que dans certaines conditions. Quant au ministère tchèque des Affaires étrangères, il met lui expressément en garde contre les risques et les effets imprévisibles de ce breuvage, qui a notamment valu à l'ambassade tchèque au Pérou de s'occuper de plusieurs cas d'hospitalisation de ressortissants souffrant de graves problèmes psychiques.
Et on termine avec notre récit historique du mercredi. Bien que méconnu, c'est une tradition bien ancrée en pays tchèque que celle de la défenestration. À quelques reprises au cours de l'histoire, de 2 à 4 fois selon les critères de sélection retenus, des Tchèques ont jugé bon de jeter leurs concitoyens par la fenêtre, toujours dans un contexte politique particulièrement délicat. La première défenestration, qui a marqué les esprits, est celle survenue le 30 juillet 1419, il y a tout juste 600 ans, un événement considéré comme le point de départ des guerres hussites. Chapitre de l'histoire, c'est aujourd'hui avec Pierre Ménian.
Chapitre de l'histoire.
Ce 30 juillet 1419, après un prêche enflammé du prédicateur hussite Jan Želivský, une foule de Pragois se rend à l'hôtel de ville de la nouvelle ville, investit les lieux et, ne parvenant pas à obtenir satisfaction auprès des échevins qui y sont présents et qui se sont montrés hostiles aux hussites, en balance un certain nombre par les fenêtres. Voici en résumé à quoi correspond la première défenestration de Prague. Bien sûr, pour comprendre ce geste surprenant, il convient de poser tout d'abord quelques éléments de contexte. En ce début de XVe siècle, la chrétienté est divisée entre deux papes, l'un siégeant à Rome, l'autre à Avignon, chacun se prétendant le seul légitime. La Bohême, alors au cœur du Saint-Empire romain, connaît quant à elle des troubles d'ordre politique, le roi Venceslas IV, fils de Charles IV, peinant à asseoir son autorité royale, ainsi que de graves problèmes religieux marqués par la crise que traverse l'université de Prague et la montée d'un courant réformateur au sein de l'Église. Ces velléités de réforme s'incarnent tout particulièrement en la personne du prédicateur tchèque Jan Hus, qui prône un retour à des pratiques plus sobres du catholicisme. Arrêté en 1414, il est condamné à mort lors du concile de Constance l'année suivante. Cela n'est pas propice à calmer ses partisans, bien au contraire, comme le développe la médiéviste Eva Doležalová, spécialiste de la période.
La défenestration est précédée d'une période d'évolution orageuse qui débute sans doute avec la condamnation au bûcher de maître Jan Hus en 1415. On peut penser que 4 ans, c'est une longue durée, mais il a fallu du temps pour que les populations, tant des villes que des campagnes, se radicalisent. Le peuple était mécontent, et pas seulement en raison de la mort de Jan Hus. Il y avait le problème de la poursuite de la réforme religieuse, l'action des prédicateurs, justement, également à la campagne, et la question de savoir si la communion avec le calice était nécessaire pour obtenir le salut.
Au début de l'année 1419, le roi Venceslas IV, en conflit avec son frère Sigismond, roi des Romains, lequel conteste son autorité sur la Bohême, essaie bien d'arrondir les angles d'une situation qui ne cesse de s'aggraver en nommant de nouveaux échevins à la mairie de la nouvelle ville à Prague, dont certains acquis au courant réformateur. Mais rien n'y fait et la tension croît de façon dramatique quand les autorités ecclésiastiques décident de limiter certaines pratiques religieuses et le nombre de paroisses dans lesquelles les prédicateurs hussites sont autorisés à prêcher. Résultat des courses, la journée du 30 juillet 1419, que raconte Eva Doležalová et qui n'est sans doute pas un événement tout à fait improvisé.
La journée du 30 juillet 1419 avait certainement commencé comme n'importe quelle autre journée. Il y a un sermon et une messe avec la communion sous les deux espèces à l'église Notre-Dame-des-Neiges où officiait le prédicateur Jan Jelecki. Mais cette journée n'est sans doute pas si banale que cela. Des historiens tels que František Šmahel considèrent que l'opération a été préparée secrètement et que des partisans de Jan Jelecki étaient déjà présents dans l'église et armés. Ses fidèles sont ensuite partis en procession vers l'église Saint-Étienne, ce qui n'est pas un hasard puisque Jan Jelecki, qui est officier précédemment, y avait été relevé de ses fonctions justement parce qu'il pratiquait la communion sous les deux espèces.
Až se můžeme od těchto tyranů dočkat spravedlnosti. Bože, pojďme tedy na radnici a osvoboďme naše bratry.
C'est dans cette église, sans doute, que le prédicateur appelle la foule à se rendre à l'hôtel de ville de la nouvelle ville, afin, semble-t-il, de demander et d'obtenir la libération de certains frères. La foule se rend sur les lieux, pénètre dans l'édifice, dont l'accès est bloqué aux éventuels soldats appelés en renfort par les magistrats municipaux, et des négociations s'engagent avec ces derniers. Elle tourne court et les échevins non coopératifs sont défenestrés. Selon Eva Doležalová, leur chance de s'en sortir vivant était de toute façon réduite puisque des hommes armés les attendaient au pied des fenêtres de la mairie. Cela confirmerait, d'après elle, le caractère planifié de l'événement. À quoi peut bien ressembler une telle manifestation au début du XVe siècle? L'historienne tente une réponse.
Tout ce qui se rapporte au nombre de personnes ayant pu participer à la procession est très hypothétique. On peut sans doute parler de centaines, voire de milliers de personnes, mais il ne faut clairement pas imaginer une place Venceslas remplie de monde comme aujourd'hui. Car Prague, à l'époque, quand fonctionnait encore l'université avec ses professeurs, ses étudiants, ses maîtres, ses employés et ses commerçants, comptait au maximum entre 30 et 40 000 personnes. Donc une foule de quelques centaines de personnes était suffisante pour semer la terreur parmi les échevins.
Si les événements du 30 juillet 1419 sont relativement bien connus, c'est que les historiens peuvent s'appuyer sur différentes sources pour tenter de les établir et de les interpréter. Eva Doležalová.
Il existe deux sources que nous pouvons considérer comme fiables, ou en tout cas comme relativement fiables. La première est la fameuse chronique de Vavřinec de Březová, que nous appelons aujourd'hui la chronique hussite. Elle est assez avare dans sa description des événements, mais elle nous permet tout de même de saisir leur violence. Nous connaissons à peu près le trajet suivi par la procession, nous en connaissons l'acteur principal, c'est-à-dire Jan Jelecki, mais la description sans doute la plus fidèle et la plus détaillée se trouve dans les vieilles annales tchèques, Staré letopisy české. Les noms des échevins défenestrés sont mentionnés, c'est comme cela que nous savons que l'événement a fait 11 victimes en tout. Zmíněna i jména těch končelů, kteří byli z radnice vyhozeni a tak se dozvídáme,
že vlastně tato událost měla 11 obětí. Ces sources ne permettent cependant pas totalement de saisir la réaction, ou plutôt l'absence de réaction du roi Venceslas IV après la défenestration. C'est pourtant ce qui permettrait en partie de comprendre pourquoi la Bohème s'enfonce ensuite dans la guerre.
Le roi ne résidait plus à Prague pour des raisons tant politiques que personnelles. Il craignait pour sa vie et plutôt que de résider à la cour royale à Prague, il siégeait au nouveau château de Kunratice à une heure à cheval de la ville. Il n'aurait donc pas pu intervenir rapidement dans les événements. De toute façon, sans doute n'avaient-ils plus la force d'influer sur leur cours. Les circonstances font malheureusement qu'à peine 2 semaines plus tard, le 16 août, le roi décède. Les chroniques font état d'une attaque dont il aurait été victime. En vérité, le seigneur n'avait plus aucune prise sur la situation. Paradoxalement, c'est sa mort qui allait l'influencer.
En effet, après le décès de Venceslas IV, son frère Sigismond de Luxembourg revendique logiquement la couronne de Bohême. Mais une partie importante de la noblesse locale, acquise au mouvement réformateur, ne reconnaît pas son autorité, tandis que le pape Martin V a appelé le souverain à diriger une croisade contre les Hussites. C'est le début des guerres Hussites qui devaient ravager le pays pour une quinzaine d'années.
Zvolte si nyní osvědčené muže zajít many města a připravte se k obraně.
Chceme toho, kdo nás vedl. Jana Žižku. Jana Žižku.
Au cours de ce violent conflit, un chef de guerre s'illustre dans le camp hussite, Jan Žižka, dont les sources mentionnent sa présence sans doute passive lors de la défenestration de Prague. Quoi qu'il en soit, c'est bien d'un événement majeur de l'histoire tchèque dont il s'agit, ainsi que conclut Eva Doležalová.
C'est un tournant majeur parce que jusqu'à aujourd'hui, cette défenestration est considérée comme le point de départ de la révolution hussite. L'événement n'a jamais été oublié et a clairement été utilisé à des fins de propagande, puisqu'il illustrait le fait que des partisans du calice étaient prêts à liquider physiquement leurs adversaires, ce qui n'a pas contribué à leur bonne réputation de par le monde. D'un autre côté, une autre propagande se développe à partir du 19e siècle, quand on a commencé à insister sur les aspects sociaux de l'événement et à porter attention aux pauvres. Cela avait un impact politique aussi, et surtout au 20e siècle, quand on a voulu montrer que les riches bourgeois, nobles, seigneurs et aussi prélats portaient la ruine de la vie en société et qu'il devait accepter la place des pauvres pour rétablir la situation. L'événement prend alors un autre sens puisqu'on voit qu'il devient juste quand le peuple prend en main la question de la justice.
Merci Pierre Maignan pour ce numéro de Chapitre de l'Histoire. Et c'est déjà la fin de cette émission, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Avant qu'on se retrouve demain, pensez à faire un détour par notre site internet radio.cz/fr et par nos réseaux sociaux pour retrouver tous nos entretiens, reportages et autres informations. Cette émission a été réalisée par Dagmar Tilova avec à la technique Pavel Cahoun et au micro Anna Kubishta et Colin Gruel. Belle journée à vous, à demain, ahoy.